Vous êtes sur Radio Canu, sur le 102.2, la plus rebelle des radios. Il devrait bientôt être l'heure. Vous êtes sur Radio Canu, sur le 102.2. Il va bientôt être l'heure. Donc je disais, avant de m'interrompre dans ma phrase, l'heure du Canu Info de ce jeudi 1er avril 2021. Nous allons certainement pouvoir vous lancer un petit générique, je l'espère. Non. Alors on ne lancera pas de générique, je vous propose qu'on fasse à l'ancienne. Je ne vais pas chanter ce soir, nous avons prévu une émission pour ce jeudi 1er avril 2021 autour d'un sujet qui nous a tous les deux avec Laurent intéressés, énervés peut-être aussi un petit peu. C'est ce qui se passe à Science et Vie et donc on a construit ce soir des sujets pour parler de science à notre manière, hein, à notre façon Radio Canu. Hein. On va parler de Science et Vie, de Species. Et puis on vous parlera aussi d'une série ce soir et puis aussi de livres et d'ouvrages. Et donc comme ça on pourra vous parler un tout petit peu plein de choses. Moi je voulais en profiter pour dire que vous pouvez réécouter sur Rebellion ce qui s'était passé en 2002 puisque quelqu'un a eu la bonne idée de remettre les sons de Radio Canu de l'époque. Ça nous parle de la Palestine, ça nous parle d'Arafat et 20 ans après on peut dire que les personnes en parlent encore avec beaucoup d'émotion. Donc voilà, c'est à réécouter sur Rebellion évidemment. Alors le sujet de ce soir, central pour nous pour cette émission, Laurent, c'est Science et Vie. Ouais.
Malgré les problèmes techniques, nous allons arriver à faire ce qu'il y a d'info. Je ne sais pas pourquoi, le générique n'a pas voulu fonctionner.
C'est la grève.
Du générique, en tout cas. Là, j'ai l'impression qu'on est en direct, donc ça va. Donc, 9 journalistes travaillant en Science et Vie. Alors, c'est un ultime rebondissement, dirons-nous. Donc, en fait, la totalité des rédacteurs titulaires ont annoncé mardi, il y a deux jours, avoir démissionné de Science et Vie, donc en raison de désaccords avec la nouvelle direction. C'est le groupe Reworld Media qui a acheté Science et Vie en 2019. Alors, ce départ collectif concerne donc 5 titulaires, 4 pigistes, donc c'est pour ça qu'ils sont 9, qui géraient le magazine spécialisé dans la vulgarisation scientifique. Le plus vieux, il a plus d'un siècle, c'est une publication vraiment historique, avec beaucoup de changements hein, tout au long de cette longue histoire, dont des changements récents et qui laissaient présager un changement un peu du contenu hein, qui se simplifie beaucoup chez Science et Vie ces 6 derniers mois. Et ben maintenant on a finalement l'histoire, c'est le groupe Reworld Media qui fait le ménage quelque part. Voilà. Donc aujourd'hui le travail de veille scientifique, la quasi-totalité de la rédaction des articles donc va être confiée à des pigistes. On va pas critiquer la qualité des pigistes, mais parce qu'ils peuvent être très bons dans leur domaine, on imagine bien. Sauf que avoir des journalistes scientifiques qui ont des grosses connaissances, qui ont du recul, ben c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus efficace que d'avoir des pigistes. On l'a vu avec un journal qui avait un passé historique qui s'appelait France Soir, le propriétaire a viré tous les journalistes et on n'a plus que des pigistes, et des pigistes qui sont tous des journalistes. Du coup, on a maintenant un site complotiste à la place d'un journal. C'est quand même ce qui semble vouloir arriver à Science et Vie. On n'espère pas. Enfin, on est sur la mauvaise voie.
Alors, c'est pas tout à fait, effectivement, le même processus. Mais sur Science et Vie, effectivement, ce que disent aussi ces journalistes de Science et Vie, c'est qu'une rédaction, c'est un collectif. Donc, effectivement, il y a l'apport collectif de mieux travailler ensemble dans le cadre de la science, d'être mieux, d'être plus opérationnel. Et puis, tous ces pigistes, c'est finalement le cadre de l'auto-entrepreneuriat. Donc, une solitude de travail, ça ne veut pas dire, comme tu disais, Laurent, qu'effectivement, ils sont mauvais. C'est juste que c'est plus les mêmes conditions et que c'est aussi ce collectif qui faisait vivre ce magazine.
Non, mais on est sûr de perdre en qualité de façon éditoriale, puisque en plus c'est dans un domaine pointu, la science, donc voilà, c'est critique. Mais on avait déjà eu des doutes, hein. Hervé Poirier, qui était le prédécesseur à la tête de la rédaction, avait quitté son départ en septembre dernier, sans rien dire à personne, 21 ans de maison. Il y avait des trucs, voilà, lui il avait déjà pas apprécié l'arrivée de ce Reworld Media dans le capital du magazine, qui avait déjà été vendu plusieurs fois, hein, donc voilà. On a vu des craintes d'ailleurs à la vente précédente, finalement, ils n'avaient pas touché à la rédaction et trop au contenu, du coup ça se poursuivait bien.
Oui, c'était Mondadori France, effectivement, tout le monde était inquiété, parce que c'est aussi, tout ça intervient aussi dans une période de fusion de la presse, et les titres appartiennent finalement de moins en moins à une pluralité d'éditeurs.
Ouais. Alors ils avaient fait 3 jours de grève, hein, on se rappelle, voté une motion de défiance à l'encontre de la direction, ce qui n'avait rien changé, d'où la démission donc de ces 9 journalistes, donc de tous les rédacteurs titulaires. On verra ce que ça va devenir dans les semaines qui viennent. Je ne sais pas si tu voulais dire autre chose dessus.
Non, c'est tout le groupe qui a les mêmes problématiques. Chaque titre est conçu de la même manière, c'est-à-dire des gens qui sont donc payés à la tâche. C'est le principe de la pige.
Oui. On l'a déjà sur le site internet, par exemple, de Science & Vie, qui est fait par des pigistes. Il n'y a aucune qualité éditoriale digne de ce nom. Hein, ils reprennent les dépêches d'agence qui sont qualifiées science et ils les remettent dessus.
Alors, d'ailleurs, des fois, il y a eu des publications sur le site qui étaient complètement aberrantes, qui sortaient de nulle part, qui n'avaient pas du tout été étudiées et qui étaient en plus en contrepoint, voire en contradiction avec ce qui était édité dans la version papier. Donc il y a eu des aberrations éditoriales, scientifiques, qui ont marqué quand même ces derniers mois Science & Vie. Aujourd'hui, on perd quand même un magazine qui est respecté en France, qui est rare.
Oui, qui avait une qualité, c'est d'être lisible par tout le monde.
Ouais.
C'est sûr que des fois, il y avait des articles. Alors, plus depuis quelques mois quand même. Mais avant, il y avait quelques articles un peu pointus. Mais sinon, n'importe qui qui a fait le collège pouvait lire Science & Vie. C'était relativement assez accessible. C'était même très accessible.
C'était surtout, on en a discuté tous les
et
deux.
Varié.
C'était que, vous savez, dans cette émission, le scientifique, c'est Laurent. Moi, j'en suis pas une très grande. Mais par contre, la science, ça m'intéresse. Et j'ai toujours trouvé que Science & Vie, c'était aussi un magazine familial parce que tout le monde pouvait y trouver un sujet de plaisir, c'est-à-dire qu'on a dont on peut avoir envie de s'intéresser régulièrement, et puis évidemment les découvertes. Après, nous, vous savez, on l'avait déjà fait une fois, on avait aussi critiqué Science & Vie sur ces parties de publicité. La rédaction s'était dit oui, mais c'est pas nous, c'est les autres. Mais ça devenait quand même problématique quand un magazine comme Science & Vie, qui a beaucoup attaqué la fausse science, la fraude scientifique, attaquait l'homéopathie, et on se retrouvait avec des pages
de pub
pour ses produits, les pages aussi pour les bagnoles qui sont extrêmement importantes, faire un article sur l'environnement et sur les dangers avec une analyse scientifique de la pollution des bagnoles, quand on vous vend des SUV une page sur deux, c'était aussi un problème assez important ces dernières années quand même à Science & Vie.
Même s'ils avaient trouvé une astuce avec la pub, c'est qu'elle était en début de magazine et qu'une fois qu'on attaquait les vrais articles de fond, il n'y avait plus du tout de pub, du coup ça restait super agréable à lire quand même.
Ouais, mais enfin, c'est encore des magazines dans lesquels on trouvait, vous savez, ces croisières avec spécialistes. donc des fois, effectivement, vous avez des vrais spécialistes, et puis des fois, c'est un peu de la vente.
Ça, c'est pareil, c'est arrivé avec le rachat du groupe précédent où on monnaie la marque, en fait, on fait du business. Hein. Alors, du coup, en magazine scientifique, qu'est-ce qui reste? On se pose la question. Donc, a priori, en compromis, plutôt pas mal, il reste Pour la Science, qui, à mon avis, moi, le meilleur compromis actuel. Autrefois, on avait La Recherche. Alors, La Recherche, il leur est arrivé un truc qui ressemble à Science & Vie. En fait, dans le même groupe, dans le même propriétaire, qui s'appelle Claude Driel, je crois, il possédait aussi Science & Avenir, qui est la plus accessible possible, un peu, le concurrent de Science & Vie. Et lui, il a voulu fusionner les deux titres. Alors, il y a eu une bataille au niveau de la rédaction, ça a réagit un petit peu contre cette fusion de deux magazines qui étaient complémentaires et mais qui avaient pas la même démarche, qui visaient pas le même public. Des scientifiques s'étaient mobilisés aussi pour dire que ils aimaient bien Pour la Recherche et ce serait bien que ça continue. C'était donc l'année dernière, pendant le confinement, et en septembre 2020, c'est arrivé, La Recherche a disparu, c'est fondu dans Science & Avenir, dans un truc hybride, mais on a perdu en qualité là du coup, parce que La Recherche, les articles étaient largement au-dessus de ce qu'il pouvait y avoir dans Science & Avenir.
Et on est parfois à la limite du tape à l'œil quand même.
Ouais, mais ça, sur ces vies, c'était pareil.
Dedans,
ouais, ils essayent de vendre leur magazine, après, il reste. Alors, il y a un truc un peu à part qui s'appelle Science et Pseudosciences, qui est édité par l'AFIS. l'Association française pour l'information scientifique. Alors eux, c'est des ultra-rationalistes, mais alors moi j'aime bien lire de temps en temps leurs articles, mais une fois sur deux je vomis, parce qu'ils sont pro-nucléaires, c'est insupportable, ils ont pas de recul sur... pas de fibre de défense de la planète, ils sont trop scientifiques. C'est un petit peu leur défaut, par contre ils sortent un magazine sans pub. Et c'est un vrai respect qu'on peut avoir pour eux. Et après, il y a des revues spécialisées, plus sur, voilà, sur le, ce qui se passe dans le ciel, hein, par exemple, enfin sur les planètes, dirons-nous. Puis après, il y a beaucoup, beaucoup de revues qui sont limites, pseudo-scientifiques, voilà, qui sont à la rue, enfin qui ont pour but de faire de la pseudo-science. Bon, voilà, c'était le triste nouvelle du jour dont on avait déjà brièvement parlé il y a quelques temps.
Alors c'était pour nous l'occasion ce soir de parler d'une série. On a décidé ce soir de vous parler d'une série de Canal+, puisque maintenant vous savez qu'il faut labelliser une série quand on en parle.
T'as Canal+, toi? Pardon, vas-y, continue.
Alors, donc, comment dire, les choses se font comme elles doivent se faire dans la vie. On a donc décidé de, ce soir de vous parler de la série créée par Clémence D'Argent et Martin Douer, réalisée par Anthony Cordier, qui s'agit donc d'OVNI, avec le petit S
entre parenthèses
à la fin. Alors c'est une on peut dire que c'est plutôt une jolie surprise, cette série. C'est plutôt inventif, c'est plutôt drôle. On va vous raconter tout de suite de quoi ça parle si jamais vous n'en aviez jamais entendu parler. C'est l'histoire d'un Didier Mathur, entre autres, ingénieur CNES, qui se retrouve obligé d'aller au GEPAN, le service qui étudie les objets non identifiés et qui volent.
Les ovnis.
Les ovnis. Il va rencontrer sur son chemin un homme qui vend des claviers avec des petites couleurs, hein, un vendeur à domicile. Ça se passe en 78, c'est une autre époque. Et à partir de là, vont s'enchaîner les rencontres, les quiproquos, les situations loufoques et scientifiques. Et nous, ça nous a bien plu, cette histoire. Alors, d'abord, pourquoi on aime? Peut-être pour l'ambiance des années 70, Laurent?
Alors, c'est très très bien fait, hein. Ils ont repris... Alors, bon, tout le monde sait faire, mais on peut quand même le dire. C'est très bien fait. Et alors, ils sortent les voitures qu'on a déjà vues, les 304, les CX, tout ça. Puis d'autres trucs beaucoup plus improbables, comme le... Je parle de voiture aujourd'hui, t'as vu? Comme le coupé Opel, là, avec les phares qui bougent, là, qui est impressionnant, avec les phares qui bougent. Puis il y a tout l'environnement.
Les belles tapisseries à l'époque. Voilà. Alors évidemment, si c'est une époque que vous n'avez pas connue, les années 70, la tapisserie vous parle peut-être peu. Mais on en trouve... Je suis sûre que ça va devenir très à la mode. Alors c'est un côté vintage, parce que les années 70 sont à la fois un peu moquées dans certaines situations. On appréciera évidemment les costumes bleus qui fleurissaient à cette époque. Justement, les fleurs un peu de partout. Et puis une nouveauté aussi, c'est Giscard d'Estaing, Valérie Giscard d'Estaing, qui est là, et c'est une époque où on recherche aussi la nouveauté, la technologie, la science. Il y a des avancées, et on sent que c'est une époque où tout est possible, et en France on croit très très fort aussi dans ses capacités scientifiques. Et sur l'aérospatiale en particulier.
Voilà, puisque le CNES, hein, c'est le Centre National de l'Aérospatiale français. D'ailleurs, il bosse avec Ariane après pour la fusée. Il y a un enjeu autour de ça, puisque M. Mathur a fait péter, exploser sa fusée. Là, ça rappelle une actualité du jour. Là. Donc voilà, on est dans cet environnement 70s et scientifique.
Alors, c'est esthétiquement très riche, mais à côté de ça, effectivement...
C'est loufoque.
C'est loufoque. C'est une très belle comédie. Mais historiquement, je trouve que c'est aussi très passionnant, parce qu'on parle de la recherche spatiale, on en parle plutôt bien, dans ces petits méandres. Alors, c'est pas technique, hein, on n'est pas là pour vous expliquer le moteur d'une fusée, mais aussi comment, à l'époque, les ingénieurs pouvaient se croiser, être parfois très solitaires. Là aussi, le rapport à la hiérarchie et à la politique. Il faut rappeler aussi qu'il y a le KGB, c'est la guerre froide. Et puis, il y a des médias en France qui sont aussi là, et c'est ce qu'ils sont. On va retrouver un Jean-Claude Bourret, par exemple, là aussi, peut-être que ça vous dit rien, mais une sommité aussi à l'époque de l'actualité et du journal d'époque, avec des... Voilà, vraiment, c'est quelque chose. Et ben aussi, c'est le rôle, c'est la position de la femme dans cette société qui se modernise. Donc, les femmes font des études, donc on a ce personnage de femme
ex-femme de Didier Mathur, là.
Ingénieur, Élise Conti, je cherchais son nom, Élise, mais qui en même temps se retrouve quand même l'air de rien toujours butée à une situation qu'on lui rappelle. Bon, si t'y arrives pas, c'est peut-être quand même parce que t'es une femme. Ouais. Et que même si les gens ont l'air bien embêtés, que ce soit parce qu'elle soit une femme, c'est aussi une réalité de l'époque, mais aussi une réalité sociale. Le divorce, par exemple, avec les deux enfants,
qu'elle gère beaucoup plus.
Mais qui est aussi surtout quelque chose qui est moins évident qu'aujourd'hui pour les enfants. À l'époque, dans une classe, quand on était l'enfant de divorcé, c'était aussi quelque chose. Et puis, ce qu'on aime aussi beaucoup, c'est les références cinématographiques et même de la culture populaire, finalement, qu'on va retrouver un petit peu.
Il y a Steven Spielberg, hein, qui est
là. Ah, déjà, oui.
Lui-même. Quelqu'un qui joue son rôle. S'il ne serait pas aussi jeune, sinon.
Paul Spera, mais je peux dire qu'il s'appelle l'acteur.
Et puis, il y a les références. Il y en a deux qui sont énormes. Celle dans l'épisode 2, où il attend.
C'est Nicole, pas tout, mais oui,
Nicole Garcia. Et en fait, il est au milieu d'un croisement. Donc là, c'est la mort aux trousses. Il se tourne, on a les mêmes plans et on a le bruit au fond qui arrive. Bon, bah, ce sera pas l'avion qui arrive, mais ça, je vous raconte pas la suite.
Voilà, et donc il y a des petites choses comme ça.
Et il y a le plan Brésil qui est énorme.
Qu'on repère ou pas, hein, donc c'est pas grave quand on les repère pas, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est marrant de se dire oh là là, et puis de se dire, mais tu crois pas que c'était ça le plan. Donc c'est très drôle. Et donc tu parlais de Nicole Garcia qui joue le rôle de ce commandant Valérie Delbrosse, est à la direction de la sécurité militaire, qui elle aussi est une femme et qui a bien des ennuis. Hein.
Bon, enfin, il faut dire qu'elle a allumé.
Alors, elle est Nicole Garcia, elle est absolument fabuleuse, mais d'une manière générale, on a trouvé ces acteurs et ces actrices plutôt emballés, a priori, de jouer ces rôles. Melville Poupeau, qui joue Didier Mathur, il est à la fois obtus, un peu niais quand même, il faut le dire.
Ouais.
La tête dans les étoiles, bien justement, hors de son couple, de la famille, de ses enfants.
Et le petit gamin.
Ah, toi, tu as beaucoup aimé.
C'est pas le mieux, je trouve, mais il est énorme.
Alessandro,
il
a une bouille. Qui joue Bastien,
il a une bouille incroyable, il est très très bon.
C'est vrai qu'il y a souvent aussi beaucoup de gros plans sur les visages, sur des têtes, parce que ces acteurs et actrices sont aussi accompagnés d'un certain nombre de répliques qui sont tout à fait croustillantes, soit parce qu'elles font référence à l'époque, et évidemment, ça peut faire sourire quand on se souvient de certaines choses, ou quand on regarde le passé et qu'on se dit, ah bah oui, soit parce qu'ils se répondent un peu de manière du tac au tac, et puis il y a un peu d'absurde dans ces répliques aussi.
Ouais, mais plein. En fait, ça a été tourné en Belgique. Et du coup, il y a un côté belgitude. Non, mais c'est énorme, en fait, de décalage. En fait, c'est tellement pas souligné dans le film que des fois, on s'en rend à peine compte. On se dit non, mais en fait, là, avant, c'était une blague, en fait. Et voilà, c'est décalé en permanence.
Mais c'est vrai qu'il y a des nous, on a beaucoup. Alors, je sais que tu as beaucoup craqué sur.
Elle est énorme.
Daphné Patakia, qui joue Vera, qui est absolument magnifique. Elle a des yeux.
Elle arrive à jouer avec les yeux écarquillés tout le temps. C'est un truc incroyable.
Mais c'est parce qu'elle arrive très très fortement à démontrer à la fois la jeune femme de son époque.
Ouais, particulière quand même.
Mais la tête dans les nuages, pleine d'espoir, bienveillante. On adore Vera, accompagnée de Rémi, le geek des années qui arrive dans les années 70, qui sont aussi une nouveauté de cette époque. Comment d'un seul coup l'informatique, on n'est pas encore à se démocratiser, mais comment on retrouve déjà certaines personnes qui sont les deux mains sur le clavier, qui lâchent pas les écrans. Moi j'ai beaucoup aimé Jean-Charles Clichet qui joue François Duluc et Zorel. A des comédiens et des comédiennes absolument fabuleux finalement dans ce rôle. Alors c'est une série qui nous parle des ovnis, qui nous parle de l'espace.
Qui est quand même sérieuse, hein, parce que sur les ovnis, ils démontrent chaque fois que ça n'existe pas, comment ça c'était une lanterne, machin, ça c'était la lune, ça c'était. C'est intéressant, quoi.
Mais c'est vraiment aussi là où les gens, souvent, quand vous dites que vous êtes rationaliste, par exemple, vous aimez même la science, des fois les gens vont loin, que vous n'avez pas d'imagination, mais vraiment, vous ne comprenez rien à la vie. Et ben non, parce que cette série, elle est la preuve qu'on peut être dans le rationalisme et dans l'imaginaire, c'est tout à fait compatible. On peut rêver qu'il y a des ovnis dans une série ou pas, parce que nous, on doit vous le dire, c'est une série à suspense. Y a-t-il ou pas des ovnis? Est-ce une machination?
Une chute énorme à la fin, un cliffhanger, ou je ne sais pas comment on l'appellerait, mais non, il y a des surprises à plein de moments.
Je te sens très très emballé, donc c'est bien. Mais il y a ce suspense, et puis effectivement, ça parle de science et d'une manière assez sérieuse. Et puis des équipes.
Parce que ça existe vraiment. Alors toi, tu as trouvé que le GEPAN existait vraiment.
Alors, c'est le nom du GEPAN, donc il a été créé en 77, il a fonctionné jusqu'à 1988. Donc il dépendait du SNES à Toulouse. Donc, Yves Sillard et Claude Poer qui vont impulser la création de cet organisme. Claude Poer sera le premier président et il travaille finalement un peu comme le GEPO montré en 78, c'est-à-dire qu'il y avait lui puis une personne et puis pas de moyens, un minuscule endroit pour travailler. Et puis au bout d'un moment, il va y avoir une dizaine de membres. Ça va, il va y avoir une augmentation hein, un petit peu à la fois du personnel et des moyens. Mais le GEPO est assez rapidement quand même accompagné, on va dire, par des chercheurs, des scientifiques, des ingénieurs du CNES qui vont donner des collaborations, des coups de main. L'idée, c'est de s'intéresser à ces objets volants non identifiés, c'est-à-dire que c'est pas forcément l'idée de faire une recherche de l'extraterrestre, parce que c'est vrai que maintenant, quand on dit EVNO, OVNI, on pense tout de suite à l'extraterrestre, c'est-à-dire au petit homme gris ou vert, selon les témoignages. Donc, il y a ce début, ce démarrage, et puis... il s'avère qu'en fait Poer c'est un homme qui va quand même être un peu comme ce personnage d'OVNI, c'est-à-dire il va mettre les deux mains dedans et il va finir par dire que peut-être possiblement il se passe quelque chose. Donc il va faire partie de ces scientifiques qui vont être aussi un peu mis dans des cases parce qu'il s'est emballé pas mal sur la question. Alors à cette époque-là, déjà, le GEPON est remis en question pour savoir est-ce que ça sert à quelque chose. Et puis de toute façon, vous êtes une bande de farfelus, il faut fermer cet endroit, vos enquêtes ne servent à rien et elles ne démontrent rien. Alors le GEPON est contesté, les scientifiques se mettent dessus, et puis il y a évidemment la politique qui se met en place. Et en 88, on remplace tout ça par le CEPRA, qui est le service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique. Donc on change le nom. C'est Jean-Jacques Velasco qui va devenir le directeur de cette structure qui dépend toujours du CNES. Les objectifs sont de prévoir et d'étudier les rentrées atmosphériques de météores et de satellites artificiels et d'analyser les informations concernant les phénomènes aérospatiaux non identifiés, ce qu'on appelle le PAN au CNES, hein, ou le PAN, si vous le lisez. Là, il y a une réduction drastique du personnel dès 99, c'est-à-dire que finalement, le CEPRA ne fonctionne plus vraiment, il sert à plus grand chose et va disparaître en 2004. Mais il faut savoir qu'en 2001 et 2002, le CNES souhaite supprimer le CEPRA. C'est un peu ce qui se passe dans cette série OVNI, puisque Didier, quand même, envoyait.
Pour fermer le service.
Pour savoir si. Oui, pour fermer le service. Il y a derrière des idées politiques et finalement, ça sera officiel. Le CNES va décider de supprimer le CEPRA. Il y a des désaccords entre M. Velasco et la direction du CNES, d'autres scientifiques, et ça sera remplacé en 2005 par le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est aussi un GEPON, mais vous aurez compris qu'il y a un I qui s'est mis entre le E et le P. Là, l'idée, c'est vraiment de dire qu'on va être sur l'information. L'objectif, c'est de collecter, d'analyser et d'archiver les phénomènes aérospatiaux non identifiés et puis d'informer le public. C'est Roger Baldacchino qui est aujourd'hui directeur de cet établissement. Alors, il y a un comité de pilotage dans lequel on retrouve Yves Sillard qui avait créé le GEPAN au départ en 77. Et puis là, bah, il y a des liens avec la gendarmerie, la police nationale, la sécurité sociale civile, excusez-moi, l'armée de terre, enfin bon, la direction générale de l'aviation civile, et puis il y a le monde scientifique et tout ça est dans le comité de pilotage pour savoir ce qu'on fait de tout ça, puisqu'il y a quand même finalement un contrôle. Donc le GEPAN a ouvert ses archives en 2007, donc vous pouvez aller sur le site et puis regarder, puisque ces archives étaient classifiées. Donc elles ont, a priori, c'est Jacques Chirac qui avait dit que ce serait bien que les archives soient mises à la disposition. L'idée, c'est aussi de soulever justement tous ces questionnements ou tout ce complotisme qui pourrait y avoir autour de phénomènes inexpliqués, ou d'ailleurs expliqués mais refusés par une partie hein, des ufologues. Alors, moi je me suis baladée et j'ai été sur le GEPAN, hein, j'ai fait comme plein d'autres gens en ce moment. J'ai été vous pouvez faire des recherches, donc j'ai tapé d'abord Rhône, ensuite j'ai sélectionné Lyon, hein, là où il y a Radio Canu, et puis j'ai été regarder un petit peu les phénomènes. Alors on trouve beaucoup de lanternes taille. Ça, il y en a pas mal. Il y a pas mal de reflets. Donc, comment ça se passe? Alors là, on vous explique. Donc, la date, c'était le 19 décembre 2019. C'est classé en catégorie B. Il s'agirait donc d'un reflet. Donc, on nous explique qu'il y a une observation de nuit de trois points lumineux vert fluo. Méprise probable due à un reflet optique constaté sur la vidéo. Donc, il y a un court argumentaire qui explique la procédure et le protocole de l'analyse. Et puis, vous avez la note d'enquête qui est disponible, les témoignages avec l'image, le questionnaire et puis la vidéo du témoin qui donc l'avait refilé au GEPAN. Et donc vous trouverez plein d'affaires comme ça qui vont vous expliquer a priori le 6 juin 2015, il s'agissait d'un nuage avec les lumières d'une soirée ethnothèque qui se tenait au parc de Gerland juste à côté. Et donc l'effet rouge aurait fait rougir ce nuage et les gens pensaient que c'était un nuage, mais n'étant pas sûrs, ont quand même signalé cette possibilité d'un machin volant pas encore identifié et qui semblerait qu'en fait il s'agissait d'un nuage. Donc voilà, il y a des choses assez classiques qui sont découvertes par le GEPAN, exactement comme dans cette série OVNI, puisque l'idée aussi c'est d'aller enquêter sur le terrain, donc on les voit agir avec du matériel, ma foi, fort efficace et fort miniaturisé pour l'époque. Donc voilà, c'est une série qu'on vous conseille, qui est sympathique. Ce qu'on aime aussi, je crois, c'est la version courte de ces épisodes. C'est très agréable à regarder. Voilà, c'est 30 minutes maximum 40, mais c'est même plutôt du 30 minutes. Ouais. C'est très agréable. On s'est beaucoup plu à se secouer la tête sur ce générique. C'était très marrant.
Ouais, parce que la musique est 70s aussi.
Voilà, voilà.
Électronique, du coup, en lien avec la science et tout ça.
Voilà.
On va rester dans les ovnis, dans les objets volants non identifiés, et on va passer d'un ovni à quelque chose qui est devenu un objet volant identifié. On va parler de Oumuamua. Oui, il faut que je m'entraîne à le dire bien. Oumuamua. Donc, c'est un objet volant découvert en octobre 2017 qui est rentré dans le système solaire, dans notre système solaire, et qui provient donc d'un autre système solaire. Au départ, il était classé comme un astéroïde. Alors, Oumuamua, ça veut dire messager en hawaïen. Donc ça présentait un signal lumineux un peu bizarre, avec des impulsions régulières. Donc ça montrait que c'était pas un morceau classique de roche arrondie, comme c'est le cas en général des corps spatiaux qui se baladent un petit peu partout dans notre univers. Les astronomes avaient émis en fait l'hypothèse qu'il était de forme allongée, un peu comme un cigare, qui mesure à peu près 400 mètres et qui tournait sur lui-même, une espèce d'effet gyroscopique, là, tout ça. Ce qui pouvait expliquer la signature lumineuse variable et bizarre observée par les télescopes. Plus étrange encore, quand il s'est approché du Soleil, cet objet volant système solaire, stellaire, enfin, ce système, notre système stellaire qui est rentré chez nous, là, c'est que quand il s'est approché du Soleil, il a subi une importante décélération. Et quand les physiciens ont calculé, ils se sont dit, c'est pas possible en fait, on n'a aucun matériel, nous, chez nous, qui est capable de décélérer comme ça. Donc, tout de suite, l'hypothèse sortie, c'est le premier vaisseau spatial extraterrestre que l'on voit. Alors quand on voyait les photos, c'était quand même chelou, parce qu'il n'était pas beau, ce vaisseau, il était un peu rugueux. Alors il s'est avéré que pas rond du tout, c'est plutôt une sorte de pancake, si tu veux, la forme, et avec des marques relativement régulières d'ailleurs. Alors l'explication, on l'a, en fait, il y a eu plusieurs explications, bien évidemment, scientifiques, deux notamment sont un peu combattues, notamment dans des journaux de référence, un journal anglais, enfin de langue anglo-saxonne, là j'ai eu le Journal of Physical Research Planets, notamment mené par des chercheurs de l'Université de l'Arizona, qui sont arrivés à expliquer l'ensemble des spécificités liées à Oumuamua. Donc il s'agirait en fait d'un morceau de glace d'azote. Et on va voir que c'est important que ce soit de l'azote en glace et pas de l'eau, comme les comètes, puisque les comètes, je vais vous le dire tout de suite, quand elles s'approchent du Soleil, elles fondent et on a la queue de la comète. D'ailleurs, on voit souvent plus la queue que la comète elle-même. C'est grâce à la queue qu'on voit ces comètes. Mais ça ne le fait pas, en fait, avec un nuage, de la glace d'azote. Alors ça fond, donc du coup, ça ralentit énormément le bousin, je vais l'appeler comme ça, l'ovni, mais il n'y a pas la queue, voilà ce qui explique. Donc ils ont étudié les différents types de glace, à travers la masse, la forme, le degré de réflexion. Et ils sont arrivés à cette conclusion que c'est bien de la glace d'azote, ça correspond à tout. Bon, il y a d'autres théories, hein, mais ça c'est celle qui a plutôt cours actuellement. Alors ça serait issu d'une planète qu'ils appellent une exo-Pluton. Alors ça veut dire que c'est une planète qui ressemble à Pluton, mais qui vient d'un autre système solaire, d'un autre système. Alors qu'il n'y a que le nôtre qui est système solaire, hein, parce que le Soleil il est qu'à nous, et les autres c'est d'autres systèmes avec d'autres équivalents au Soleil. Donc voilà, ce serait ça. Il se serait détaché il y a un petit moment, hein, il y a à peu près 500 millions d'années de cette planète qui ressemblera à Pluton, suite à vraisemblablement un choc, un impact. Et depuis, il se balade et il est propulsé et il est arrivé dans notre environnement, dirons-nous. Érodé par les rayons cosmiques, parce qu'il n'y a pas d'air, donc il y a beaucoup moins d'usure, mais il y a quand même des rayons cosmiques qui ont donc façonné quelque part cette image, cet objet, pour lui donner cette forme un peu bizarre. Donc voilà. Alors, il y a eu quelques petites théories qui se sont un peu battues sur la composition, la forme. On en est là aujourd'hui, donc malheureusement, ce n'est pas un ovni. Le GEPAN aurait pu travailler dessus. C'est plutôt quelque chose d'extra, qui vient d'ailleurs quand même, mais qui est juste voilà, de la glace, d'azote.
Et dans OVNI, justement, on parlait tout à l'heure de cet échec de cette fusée qui retombe et qui s'écrase, et on ne vous dévoilera pas le pourquoi du comment, parce
un
que
ancêtre
tout ça est extrêmement technique. Attention, vous verrez.
Ouais, c'est ça. C'est très technique.
Technique. Alors, il y en a d'autres qui ont des soucis. C'est, vous savez, l'aventure spatiale, c'est un peu comme l'art contemporain. Il y a des gens qui disent, mais à quoi ça sert mais c'est vrai.
La comparaison n'était pas évidente au départ. Hein.
Ah non, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui disent à chaque fois à quoi ça sert. Bah ça sert à plein de choses. Et donc il y a
l'art
évidemment
contemporain ou la...
Attends, les deux cas, ça sert à quelque chose. En tout cas, je ne sais pas si ça sert, mais ma foi, c'est fort bien. En tout cas, l'aventure aérospatiale, c'est pas simple, puisque on a appris que la dernière tentative d'envoi du prototype de la fusée Starship de SpaceX s'est encore plantée.
La dernière fois, c'est en revenant, elle a atterri et après elle a explosé une fois l'atterrissage réalisé.
C'est comme la troisième fois qu'il y a des tentatives, ouais. Que ça marche pas très très bien.
Ils ont eu quand même beaucoup de réussite aussi. Hein.
Ah bah, Elon Musk, quand même, il plaisante sur Twitter puisqu'il a écrit « Au moins, le cratère est au bon endroit ». Écoute, c'est quand même quelqu'un qui met beaucoup d'argent dans cette affaire. Donc, ça a été lancé au sud du Texas. Elle a commencé son ascension, cette fusée SN11. Et puis, il y a eu des problèmes de transmission vidéo. La vidéo s'est interrompue et puis... voilà, on n'est pas prêt de se déplacer avec, en tout cas l'humanité n'est pas prête de se déplacer avec tout de suite. Là, c'était le quatrième, hein, donc prototype, pas facile. L'idée, c'est évidemment une grosse problématique de l'aérospatiale, c'est le décollage et l'atterrissage, et c'est là où il y a beaucoup de dépenses d'énergie. Donc il y a des solutions qui sont souvent cherchées. On parle de tas de choses pour qu'est-ce qu'on va trouver à la place du carburant. Pour l'instant, il n'y a pas de solution. Hein. Il y a des tas de recherches sur les moteurs nucléaires, sur des tas d'idées, mais pour l'instant, ça reste très compliqué. Donc c'est beaucoup d'énergie, donc ça rend les fusées encore plus lourdes, et puis il y a l'atterrissage.
Oui, et puis c'est fragile, c'est une explosion qu'on fait, c'est un propergol ou des trucs comme ça, là. Donc oui, c'est toujours un peu sensible. Et surtout, il veut faire des fusées réutilisables, parce que le coup, actuellement, on balance et les fusées sont mortes, en fait. Donc c'est les trucs à usage unique, on a essayé de les supprimer. Hein, on a interdit les cuillères en plastique à usage unique. L'idée, c'est aussi de faire pareil avec l'aérospatial, mais j'ai l'impression que c'est un poil plus complexe que les cuillères en plastique.
A priori, alors par exemple, ce que quand même les ingénieurs disent, c'est que bon, un échec, ça permet quand même d'avancer. Mmh. Il faut rester positif et positive, puisqu'ils apprennent un peu plus. Hein, c'est quand même de la démonstration à grande échelle. Il faut le dire, ça coûte très cher de se planter, mais ça reste quand même aussi des tests. Et puis avant d'y mettre des gens dedans, il faut quand même s'assurer que tout ça décolle. Mais voilà, ça reste quand même à chaque fois. L'idée, c'est quand même d'apprendre un peu quelque chose. C'est ce que raconte aussi cette série OVNI dans un échec. Qu'est-ce qu'on peut apprendre et pourquoi derrière, quand il y a un échec, il y a autant de recherches et d'études. Alors à côté de ça, SpaceX, c'est aussi développé. sur l'aérospatiale, puisque l'astronaute Made in France Thomas Pesquet a présenté son scaphandre SpaceX, puisque vous savez qu'il va rejoindre la Station Spatiale Internationale. Lui, il va partir à bord d'une fusée qui s'appelle la Falcon 9, hein, la Falcon 9, le Faucon 9, si vous voulez. Thomas Pesquet, c'est quand même un bonhomme qui réussit plutôt bien dans l'aérospatiale, il faut le dire. Alors, il est aussi de ces hommes et femmes qui ont une capacité de communiquer avec le monde et l'humanité qui est quand même assez extraordinaire. Il faut savoir lui reconnaître ça, et qu'il a remis au goût du jour aussi cette aventure spatiale, aussi auprès du public et pas dans quelques médias spécialisés. C'est quelqu'un qui arrive à transmettre cette passion plutôt avec goût. En tout cas, voilà, il y a... SpaceX est, s'est planté avec sa Starship, ça marchera peut-être la prochaine fois, mais d'autres technologies sont utilisées aujourd'hui par les différentes équipes spatiales qui, vous savez, travaillent beaucoup entre elles, hein. A priori, aller travailler en Russie et parler le russe, c'est un peu une obligation quand on veut aller là-haut, parce que ça fait partie de ces équipes de chercheurs, d'ingénieurs et de scientifiques qui sont assez essentielles, comme aux États-Unis d'Amérique, et puis ici aussi, évidemment, il y a toujours eu une volonté politique de conserver un peu ces prérogatives sur l'aérospatiale.
Alors, on fait une émission spéciale science aujourd'hui, voilà, un peu avec des ovnis. Voilà. Je vais continuer avec un truc qui s'appelle, c'est de la pseudo-science, et c'est intéressant d'en parler aussi.
Que... Ça rend hommage à la science civique, qui s'est toujours battue.
Ouais, contre la pseudo-science. Voilà. On va parler de dobothérapie. Alors, on est le 1er avril, mais c'est pas une blague, en fait. Hein, je vous le dis tout de suite, ça existe vraiment. Il y a vraiment des gens qui font ce truc-là. Je vais vous expliquer ce que c'est. Vous essayez de pas trop rire, quand même. Donc, on a une montée croissante, hein, des pseudo-sciences, hein, depuis quelques années. Alors, il y a la caisse de résonance qui est Internet, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses, notamment la remise en cause de la science, parce que la science est utilisée pas toujours à bon escient, et du coup les gens mélangent torchons et serviettes, je sais pas comment dire, mais voilà, ils jettent le bébé avec l'eau du bain, enfin bon, bref, on peut prendre plein d'expressions, mais du coup il y a un rejet un petit peu du rationalisme, en fait, c'est vraiment ça qui est au cœur des problématiques actuelles, hein, le rejet du rationalisme. Donc voilà, et là je vais parler de domothérapie. Donc, qui est assez symptomatique, hein, des pseudosciences, et qui notamment intègre d'autres pseudosciences que vous connaissez peut-être déjà. Alors, la domothérapie, ça signifie quelque part la mémoire des murs. Domo, c'est pour la maison, hein, en latin. Domo, tout ça. Donc, la mémoire des murs. Donc, ça commence bien, vous allez me dire. Donc, c'est une pseudoscience relativement récente, dont l'objectif est, je cite, de créer un meilleur climat énergétique au sein de notre foyer et de renforcer la qualité des relations au sein du couple et de la famille. En effet, c'est quand même pas mal déjà ça. En effet, suivant ses promoteurs, je cite, le taux vibratoire de notre habitat aurait une forte influence sur notre bien-être et des énergies nocives pourraient y régner. C'est leur discours. Hein. Et donc faire obstacle à la libre circulation de l'énergie. De toute façon, pensez à un truc, quand on vous parle d'énergie quelque part, c'est que déjà c'est de l'escroquerie, parce que l'énergie, on sait ce que c'est, voilà, c'est en joules, ça se mesure, mais eux, ils savent pas faire. Alors, du coup, la domotique va justifier une chasse à ces énergies néfastes, chasse rendue complexe par le fait que leur source serait en réalité multiforme. Et là, on reprend des trucs qui existent vraiment, pollution chimique, électromagnétique, rayon X, gamma naturel, auxquels on rajoute des trucs qui n'existent pas, les cheminées telluriques par exemple, les eaux souterraines qui auraient une influence, ou la mémoire des murs. Donc, toutes ces menaces horribles, sataniques, vont avoir une influence sur nous, et la domothérapie, à l'aide de son domothérapeute, vont résoudre le problème de nos maisons. C'est de ça dont il est question. Alors, il y a pas mal de techniques pour ça. On va utiliser, et je vais les détailler après, un truc qui s'appelle la géobiologie, la chromothérapie, le feng shui, alors ça c'est la plus connue, et le space clearing, que j'aime beaucoup. Alors, la géobiologie, le domothérapeute, lui, avec cette technique, il prétend apporter, je cite, des solutions aux nuisances permanentes, comme les cours d'eau souterrains. Vous ne le saviez pas, ça. Si vous avez un cours d'eau 600 mètres en dessous de chez vous, ça a une influence. Alors, les failles, les réseaux telluriques, mais aussi, les trucs plus classiques, les appareils électriques sans fil, etc. Donc le domothérapeute géobiologiste peut, je cite, localiser les nœuds magnétiques pouvant, par exemple, perturber le sommeil. Ou encore identifier, en fonction de votre année de naissance, ça commence à être ridicule, et de votre sexe, les coins géographiques où nous sommes plus ou moins à l'aise. Oui, ça a l'air pas mal, hein, comme truc, la géobiologie associée au doméothérapeute, là. Alors, le doméothérapeute peut utiliser aussi le feng shui, plus connu, technique de rééquilibrage des énergies qui favoriserait, soi-disant, une meilleure qualité de vie. Bon, il y a eu pas mal de choses dessus, c'est tellement ridicule scientifiquement que nous ne nous étendrons pas là-dessus. On va parler un peu de space clearing, là on a gardé le nom anglais. Il y a pas mal de trucs asiatiques, en fait, liés à la médecine chinoise, dans ce genre de pseudo-sciences. Là, c'est plutôt anglo-saxon. C'est un nettoyage énergétique des lieux où l'on habite. Ça consiste, je cite, à effacer toutes les nuisances qui vous créent des blocages, des problèmes de santé. Et qui peut, alors, ça peut même s'effectuer à distance sur un plan. C'est là où ils sont magiques, ils sont forts. Alors, c'est nécessaire parce qu'on nous explique, dans beaucoup de cas, sont présentes des énergies psychique de stress, de colère, d'anxiété, d'angoisse, de peur, généralement laissée par les anciens habitants. Et c'est là où on a cette mémoire des murs. En fait, ces énergies négatives, elles se sont incrustées dans les murs, dans les piliers. Alors, on nous explique que c'est par tous les métaux cristallins, faut faire semblant d'être scientifique, hein, dans ces pseudo-sciences. Et ça va se déverser pendant des années, soi-disant, dans l'habitation. Oui, on est bien le 1er avril, mais c'est pas une blague, ils disent vraiment ça tous les autres jours de l'année, depuis quelques années. Et enfin, il y a une technique aussi qui est utilisée par ces escrocs de tomothérapeutes, la chromothérapie, qui apporte une lumière colorée qui va rééquilibrer le taux vibratoire. C'est pas moi qui le dis. C'est important le taux vibratoire, vous vous rendez pas compte. Selon des points précis du lieu de vie ou du lieu de travail pour une harmonie, une sérénité globale. Je les ai cités bien évidemment. Voilà. Une fois votre espace de vie exorcisé de ces ondes satanique, méphistophélique, des entités ectoplasmiques qui étaient présentes dans vos murs, vous sentirez, d'après eux, libéré. Comme votre porte-monnaie. Hein, parce que, bien évidemment, à chaque intervention, ça coûte plusieurs centaines d'euros. Alors, on n'a rien sans rien, vous me direz. Hein. Alors, bien sûr, toutes ces pseudo... sciences n'ont rien à voir avec la vraie science, celle qui est rationaliste, qui se base sur des raisonnements fondés sur des pratiques rationnelles. On utilise un peu tout ce qu'on peut trouver dans les trucs ésotériques chinois, dans les trucs ésotériques européens. On prend un peu tout, on mélange et on en fait une pseudo-science. Hein. On rappelle que le feng shui, c'est le positionnement des meubles va jouer. Enfin bon, il y a des trucs vraiment ridicules, je ne rentre pas dans le détail. Alors, ce qui est le mieux, finalement, c'est ce fameux nettoyage énergétique. J'ai traduit le mot, l'expression, c'est un peu plus ridicule. Donc, c'est là, on est vraiment dans un truc kabbalistique, vous savez, carrément, on a l'impression qu'ils vont dessiner des pentagrammes en bas de chez toi pour faire partir le diable qui serait présent dans tes murs, parce qu'ils enlèvent les substances qui restent dans tes murs. En fait, ça ressemble beaucoup à Ghostbusters, à SOS Fantôme, quelque part. Ils arrivent avec des appareils qui vont enlever les trucs qui sont incrustés dans tes murs, les énergies négatives qui sont incrustées dans tes murs. Alors, ça, finalement, on pourrait le prendre comme un truc, une blague du 1er avril, si ça n'était pas une réalité des gens qui vont se faire berner par ce genre de choses. On a, je le disais en début, une vraie montée forte des pseudo-sciences par rejet des pratiques rationnelles liées à la science. La domothérapie en est une, il y en a plein d'autres, et les gens se font avoir parce que, on leur pompe de l'argent, le but c'est ça. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'était un truc que j'ai lu dans la revue de l'AFSIS, dont je parlais tout à l'heure, qui est sans publicité. Il y a quand même des choses qui sont pas mal du tout dedans, sauf quand c'est le nucléaire. Un petit truc drôle que j'ai trouvé marrant, en fait, qui est pas marrant au départ. En fait, on va parler de Camille Nous. Mais qui est Camille Nous? C'est une chose, je vais l'appeler comme ça, qui a signé des centaines de publications en un temps record dans des domaines ultra variés. Et en fait, ils sont classés très haut, enfin, Camille Nous est classé très haut dans les classements des meilleurs scientifiques actuellement. C'est un truc de dingue. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un truc de dingue. Alors, Camille Nous, c'est apparu il y a un an. En fait, c'était les signataires d'une lettre de scientifiques français qui dénonçait la loi sur la recherche en France. Là, on va parler d'un article qui est écrit dans Science, un des grands journaux, un journal scientifique nord-américain. Et ils dénoncent en fait quelque part ce qui s'est passé, eux. Ils comprennent pas, ils n'arrivent pas à accepter ça. Donc Camille, nous, c'est au moins 180 articles scientifiques sérieux, hein, publiés et acceptés dans des grandes revues. Avec, ça va de l'astrophysique à la biologie moléculaire. Hein. C'est un truc vraiment. Cette Camille, nous, elle est super douée en fait. Donc si Science s'intéresse à Camille Nuss, c'est pas pour ce qu'elle a publié, c'est parce que ça n'existe pas. Je dis ça parce que c'est une entité, ça n'existe pas. Le personnage, c'est un nom inventé, ils ont pris un prénom qui était ni féminin ni masculin, Camille, un prénom mixte, et Nuss, c'est un mot grec qui désigne la raison. Donc c'est ce collectif de chercheurs français en désaccord avec les lois libérales de programmation de la recherche du gouvernement Macron, on est en 2020. Il crée ce collectif pour dénoncer les pratiques individualistes de la science portées par beaucoup de scientifiques et par le gouvernement Macron. Ils ont monté un collectif qui s'appelle Rogue ESR et ils veulent dire que la science, ça devrait être avant tout collaboratif et pas compétitif au sens individualiste du terme. Tout le contraire de la tendance actuelle. Ils dénonçaient ça. Et pour dénoncer ça, ils ont décidé de publier plein d'articles. Au lieu de mettre leur nom, ils ont mis Camille Nuss. Et avec les systèmes de notation que les politiques français veulent mettre en avant, ont mis en avant, et que beaucoup d'autres mettent en avant, eh ben, ça devient Camille Nuss un des meilleurs scientifiques du monde. Puisque les classements font état du nombre de parutions dans lequel le nom apparaît, etc. Donc eux, ils dénoncent ça. Alors vu des États-Unis, c'est que ça complique la donne. Parce qu'ils sont dans une démarche vraiment très individualiste sur la science. Alors ils ont interrogé Science, par exemple, Lisa Rasmussen, qui est bioéthicienne, elle travaille sur l'éthique, à l'Université de Caroline du Nord. Elle dit, elle critique en tant qu'américaine, elle dit cette campagne est naïve et éthiquement elle est douteuse. Parce qu'elle bafoue le principe de base de la responsabilité et fait fi de la paternité d'un article. Alors sur la responsabilité, on pourra en discuter, mais sur la paternité d'un article, elle ne peut pas accepter, elle en tant que scientifique, et Science non plus, que ça soit une paternité collective. Et donc ils sont dans ce rejet-là. Alors ils ont des arguments qui tiennent la route, hein. Qu'est-ce qui se passe quand l'article est bidonné? On attaque qui? C'est pas faux ce qu'ils disent. Sauf que, justement, la réponse, et Science donne la réponse, donne la parole aux autres aussi, aux physiciens français, notamment Jean-Philippe Landsberg qui est au CNRS, qui est maintenant fait partie du collectif Camille Nuss, et qui explique que, en fait, eux, ils disent, quand ils utilisent Camille Nuss, ils écrivent tout de suite, attention, c'est pas une personne, c'est un collectif, pour plus qu'il y ait d'ambiguïté, en défendant l'idée que la science doit être collaborative et collective. Donc voilà, on note cette incompréhension qu'il peut y avoir entre des scientifiques. C'est la culture qui fait ça, en fait. La culture scientifique française, qui est pas mal différente de la culture scientifique nord-américaine. Et il y a cette incompréhension de l'utilisation, voilà, de cette invention, de ce personnage inventé qui est Camille Nuss. Voilà, je trouvais ça assez marrant, la réaction nord-américaine.
Bah, tu vois, par exemple, Claude Poher, qui a créé le GEPAN dont nous parlions tout à l'heure, il est l'auteur de sa théorie des universaux, ce qu'il appelle la nouvelle théorie de la gravitation. Et il pense que cette nouvelle théorie de gravitation, ces universaux vont pouvoir permettre les voyages spatiaux différents de ceux que nous connaissons actuellement, parce qu'aller loin reste quand même un problème, hein, c'est ouais. loin, je vous assure, c'est très très loin. Il va publier un article qui s'appelait « Propelling Phenomenon Revealed by Electric Discharge into Layered blablabla » un titre scientifique à rallonge, hein, c'est normal, en 2010 sur le site d'une revue, et l'article va être retiré. Là-dessus, lui, il va se fâcher, Claude Poher, il va fermer son site web et il va dire qu'on l'a censurer. L'année d'après, il va tenter de repositionner un autre article sur une autre vue, toujours sur ces phénomènes intersons. Et en fait, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, il est rejeté par une partie de la communauté scientifique, par des ingénieurs, qu'il a aussi ses difficultés, mais parce que ces articles sont considérés comme pas assez pointus et démonstratifs, peut-être. Ouais. Nous pouvoir voyager avec.
Alors on va parler un peu. On va faire la deuxième partie de la rubrique qui a contenu OVNI tout à l'heure, qu'on avait appelé à lire et à voir. Alors je vais commencer par parler de deux livres Le premier, alors c'est une trilogie, le premier c'est trois, donc trois d'un coup là.
Hein, si vous avez besoin de caler, je sais pas, un truc, mais un peu lourd, vous voyez, vous auriez vraiment abîmé votre bibliothèque à un pied qui vous manque, je pense que les trois volumes ça peut bien bien le faire.
Ouais, alors donc, c'est Liu Cixin, j'espère que je prononce pas trop mal, un auteur chinois de science-fiction, ça c'est assez rare, hein. Et c'est un grand auteur, hein, maintenant il est reconnu, il a eu moult prix partout, et donc il a sorti il y a ces dernières années une énorme trilogie qui s'appelle, qui est résumée souvent, on le dit, c'est la trilogie Le problème à trois corps. En fait, c'est le nom du premier volume de la trilogie. Même Barack Obama le citait, hein, il avait demandé en avance le troisième tome, tout ça. Donc, c'est, je vais pas détailler, c'est inexplicable, indescriptible ce qu'il y a dedans, c'est tellement dense en fait.
C'est très technique.
Alors sur le premier, sur les autres, beaucoup moins.
Ouais. Sur le premier, c'est quand même très technique.
Malgré très scientifique, ouais. Alors, en fait, ouais. il part de... ils entendent, on est dans la Chine communiste, tout ça, c'est ça sa particularité, on reviendra dessus après.
On fera une remarque,
ouais, petite remarque.
Si tu veux. Hein.
Mais, on perçoit un signal qui vient, un signal extraterrestre. Et il va se passer plein de choses, est-ce qu'on répond, est-ce qu'on répond pas, on va répondre, il va y avoir des groupes sur Terre, et toute la trilogie c'est cette rencontre avec une société extraterrestre, avec des trucs très réalistes, pour voyager il faut emmener des gens avec de quoi se nourrir pendant des générations et des générations, parce que c'est loin, même s'il va y avoir des révolutions scientifiques, etc. On a grosso modo 2500 pages hein, sur les trois bouquins, le dernier fait 900 pages, mais ça se lit très très bien. Le premier, il y a des parties difficiles, à la fin, à un moment. Mais sinon, c'est très intéressant. Et alors, il analyse beaucoup, beaucoup de trucs. C'est d'une densité incroyable. Et voilà, on a ce questionnement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Et lui, il va décrire ce qu'ils vont faire, les choix qu'ils vont faire en rencontrant... alors, c'est pas rencontre du troisième type. C'est beaucoup plus compliqué que ça et beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens qui sont dans une autre galaxie, donc pour communiquer, ben voilà, quand on envoie un message, il faut 50 ans, quoi. Donc, il y a toute la problématique, et ça se passe sur un temps, du coup, très long, sur 500 ans, puisqu'on est obligé de... Ça prend du temps de rencontrer une autre civilisation. Et il y a plein de péripéties, on suit un personnage, en grosso modo, dans chaque volume, même s'il y en a qui se recoupent. Moi, je trouve ça... exceptionnel à lire, c'est incroyable, c'est pas toujours très facile effectivement parce que c'est complexe la situation, mais j'ai jamais vu un roman de science-fiction aussi inventif que ça, quoi. C'est vraiment, il est vraiment très doué.
Alors, Liu Cixin sinon est aussi connu pour avoir tenu des propos dans un entretien, c'était il me semble, attendez, je suis en train de le New Yorker ou aux États-Unis d'Amérique, où on lui demandait sa position sur les Ouïghours. Alors on revient à la question hein, éternelle que nous adorons dans
séparons-nous l'œuvre de l'auteur.
De l'auteur, bien évidemment. Nous on adore ce débat. Je sais pas vous, mais nous beaucoup. Hein, c'est vraiment quelque chose sur lequel on revient fréquemment, avec à chaque fois plein de nouvelles références. Et donc il a répondu à la question sur les Ouïghours. Vous préféreriez qu'ils découpent les gens dans les gares ou les écoles avec des attaques terroristes? Le gouvernement est plutôt en train d'aider leur économie et d'essayer de les sortir de la pauvreté.
C'est un connard.
Impardonnable de sa part. Ce qui fait que ça a bloqué Netflix, hein, rappelons-le, sur une possible
série
issue de ses ouvrages. Donc voilà, juste pour dire qu'il y a l'œuvre et puis il y a l'auteur et il y a l'œuvre et l'auteur.
Voilà. Pourtant, il a un discours plutôt critique sur la Chine au tout début du premier roman, où ça se passe à l'époque de juste après la révolution culturelle. Il est assez, moi, je trouve, relativement critique sur cette époque-là. Mais effectivement, du coup, on se rend compte qu'il reste nationaliste chinois, un Wan qui déteste les autres communautés. Hein. Je crois qu'on a.
En tout cas, c'était une jolie bévue qui a été bien rapportée par la presse, il faut le dire. Allez, Hank,
oui, alors, il nous reste peu de temps. Très brièvement, je vais parler d'un livre de Philippe K. Dick. Alors, Philippe K. Dick, c'est difficile de passer à côté. Hein, certaines de ses œuvres ont été adaptées au cinéma et c'est devenu les plus grands films de science-fiction de l'histoire. Hein, donc, on parlera de Blade Runner, de. J'ai perdu. Mince, je voulais en citer un deuxième, mais je l'ai perdu. Enfin bon, bref, voilà, il est archi connu. Je vais vous parler d'un livre qui est très peu connu, qui s'appelle La Brèche dans l'espace, en lien avec notre thème et en lien avec la société actuelle. Et il est assez incroyablement moderne, ce livre des années 60 de Philippe K. Dick. Alors, on est en 2080, la Terre est surpeuplée, on a congelé des gens parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Il va se passer un truc assez incroyable. Mais la société est une société raciste. Il y a d'un côté les gens de couleur qui s'appellent les Colts, ça vient de color en fait, et de l'autre côté les blancs qui s'appellent les Cox, pour caucasien. On a une société binaire comme ça. On est aux États-Unis d'Amérique, hein, bien évidemment, et on a une société donc basée sur ce racisme. Et on a un candidat qui se présente pour les Noirs et qui essaye de rassembler ailleurs. Et on part sur une société raciste et arrive la science-fiction, un appareil déconne et ça ouvre sur ce qui semble être une autre planète. Et là, alors je vous raconte pas tout le truc. Alors Kadic, c'est des romans de 200-250 pages, hein, c'est pas ça se lit plutôt rapidement, mais c'est tellement condensé qu'on a on a des millions d'idées dedans. Il est assez fort pour ça. Et là, ils découvrent une nouvelle planète, ils vont coloniser, parce que comme ils ont 50 millions de personnes qui sont endormies, là, congelées, qui veulent décongeler et se débarrasser sur cette nouvelle planète vide, et en fait, cette planète, elle n'est pas vide. Au début, ils croient que c'est des extraterrestres, on est dans le rapport, et c'est pas des extraterrestres, c'est des Homo erectus. En fait, c'est l'homme de Pékin. L'homme de Pékin, c'est pas un truc raciste, hein, c'était un Homo erectus qui avait été trouvé, et qu'on appelle toujours l'homme de Pékin, parce qu'il avait été trouvé à Pékin. Et c'est en fait une sorte de terre, on sait pas bien, qui a pas évolué pareil, les Homo sapiens sont perdus, et c'est l'Homo erectus, l'homme de Pékin, qui a gardé. Et du coup, alors il va se passer des péripéties, je vous raconte pas le truc, sinon ça sera pas le coup de lire le livre, mais le racisme, il a plus sa place, parce que d'un seul coup, l'être humain rencontre une vraie race différente. Pas simplement une différence génétique sur la couleur de peau, et ça change toute la donne. Et je trouvais un roman antiraciste de Kadic, je ne connaissais pas. Et voilà, un truc très, très intéressant, donc La Brèche dans l'espace.
Et puis, on va redire qu'il faut absolument lire, voir, regarder, parce que c'est, je dois le dire, un des rares ouvrages littéraires qui s'est extrêmement bien porté en série. C'est The Expanse, hein, écrit par deux auteurs qui se sont réunis sous le pseudonyme de James et C. Corey.
C'est pas leur nom, ils ont fabriqué un nom.
Ils sont fabriqués un nom, Daniel Abraham et Ty Frank. Alors là, tout à l'heure, si vous vouliez, vous pouviez caler un pied manquant d'une bibliothèque. Là, ça vous fait une table basse, il y a quand même 9 volumes, mais c'est absolument extraordinaire comme écriture. On a aussi, l'air de rien, un rapport très technique, puisqu'ils nous racontent quand même des choses, hein, tous les deux. On va le dire toujours ils, puisqu'ils ont choisi James comme prénom d'auteur, de nous créer un environnement avec beaucoup de questions autour de la gravité. Quand on est terrien ou centurien ou martien, ce n'est pas la même chose. Le corps ne se développe pas pareil.
Et avec le même questionnement, qu'est-ce qui se passe quand on rencontre potentiellement une entité extraterrestre?
Il y a cette question. Évidemment, on a aussi des ouvrages qui sont extrêmement politiques, puisqu'on a des centuriens qui sont des colonies de Mars et de la Terre, donc des planètes se battent pour avoir ces endroits annexés. On a une population qui veut se libérer. De nouveaux langages. Dans The Expanse, on retrouve beaucoup le chinois, par exemple. Et porté à l'écran, ça pouvait être perçu comme extrêmement difficile. Et c'est une série qui a, je suis pas sûre encore aujourd'hui, beaucoup de public, même si on peut dire que c'est Amazon Prime qui a sauvé la série, qui était sur un machin qui s'appelle Sci-Fi, sur lequel il y a beaucoup de bouse. Il y a quelques réussites, hein. Faut pas se mentir, mais il y a aussi de la bouse. Et c'est vrai que quand vous reprenez la première saison de The Expanse, et aujourd'hui où on en est, vous avez de l'argent qui a été mis, vous avez un peu plus de travail, ouais. Et un peu plus de moyens. Alors ça reste, toujours est-il, une série qui n'est pas non plus du Marvel. Quand on voit aujourd'hui ce que fait Disney avec ses séries Marvel, WandaVision ou le Falcon et le Soldat de l'Hiver, où il y a des moyens dignes d'un film, hein, de cinéma réel, on n'en est pas tout à fait là. Par contre, il y a un vrai travail à l'image. C'est les bottes magnétiques qui collent, hein, pour contrer la gravité. C'est le fait de se sangler dans un siège et de s'envoyer de la drogue pour pouvoir supporter des accélération.
C'est assez réaliste sur certains trucs.
C'est assez bien fait de ce côté-là. Et je trouve que la série rend hommage plutôt à vraiment au contenu du livre et à une vision finalement qu'on pourrait s'en faire. En tout cas, moi j'ai plutôt retrouvé le contenu qu'on a du côté littéraire dans la série. Donc c'est plutôt bien fait. Alors évidemment, on est aussi avec des personnages qui peuvent être très. Le James Holden, par exemple, il n'est pas passionnant, mais c'est parce qu'il y a une ribambelle de personnages autour que tout ça s'attache. Il n'y a pas un héros central tout au long de ces 9 ouvrages. Donc en France, ça sort progressivement. On n'en est pas encore.
On n'a pas lu le 9, il n'est pas sorti.
Il ne s'est pas sorti. Mais c'est des belles séries. C'est une belle série qui accompagne très très bien l'ouvrage littéraire. Il faut vraiment, à mon avis, consommer les deux, c'est absolument nécessaire. Et puis on a une jolie quand même série de science-fiction.
Voilà. Donc on a fait un Canu Info du 1er avril, on n'a pas parlé d'information, on n'a pas voulu parler de tout ce qui se passe actuellement, parce qu'on
mais
en
on
a
veut pas
un
parler parce qu'en fait on s'était mis un gage pour tout vous dire.
Il fallait pas dire le mot.
Et puis de parler de situation, et vous voyez, nous avons réussi à tenir sans même de blagounette. Moi je vous recommande, si vous l'avez pas vu, la très belle une de Charlie Hebdo, faite par Rhys, parce que franchement, je trouve qu'elle synthétise bien ce qui pourrait se passer en 2022, même si vous savez qu'ici, on n'est pas très pro-élection. En tout cas, ça raconte aussi une réalité de notre corps électoral et de notre situation en France politique et sociale. Voilà, on vous souhaite une bien bonne soirée. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt, ciao, ciao.